Bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'émission La Bible en question. Au micro Catherine Mann et Anne-Marie Arbitre. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Catherine, bonjour à tous, ravie d'être avec vous.
Nous voici donc arrivés à la fin du corps de la lettre de Saint Paul aux Romains. Et nous allons faire aujourd'hui une récapitulation et une synthèse de toute la lettre pour essayer d'en extraire l'essentiel pour l'actualité de notre foi. Mais remarquons d'abord qu'à la fin de sa lettre, après les salutations d'usage, qui étaient d'ailleurs fort nombreuses, et que nous avons lues lors de la précédente émission, nous pouvons voir que saint Paul ajoute encore quelques mots qui reçoivent dans nos Bibles le titre de doxologie, c'est-à-dire une formule de louange qu'il adresse à Dieu et qui est ici comme une conclusion de son message théologique. Je vous lis donc versets 25 à 27 du chapitre 16 de la lettre aux Romains. « À celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. À celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. » Voilà, donc Paul met, selon cette finale, au cœur de sa théologie, le projet de Dieu pour l'humanité, mystère qui se révèle progressivement dans l'histoire d'Israël jusqu'au Christ.
Oui, et c'est donc le sens premier qu'il donne à sa lettre aux Romains. Il veut expliquer le lien entre la foi d'Israël et la foi chrétienne, et situer clairement par rapport au Christ, qui vient élargir le don de la grâce à toutes les nations, donc à toute l'humanité. Alors, apparemment, des conflits existaient dans cette communauté entre chrétiens d'origine juive et ceux qui venaient du paganisme. Et bien sûr, il fallait éclaircir les fondements de la foi pour mettre, si l'on peut, tout le monde d'accord dans une perspective plus vaste. Donc Paul se permet d'écrire à cette communauté, qu'il n'avait pourtant pas fondée, parce qu'il a reçu mission d'apôtre des nations. Et il doit donc évangéliser dans cette optique universelle, comme le Christ lui-même le lui a demandé. Et il doit en même temps faire comprendre aux Juifs convertis leur nouveau rapport à la loi et aux païens, donc, et ainsi qu'à eux-mêmes d'ailleurs, car ils doivent apprendre à se départir d'un certain orgueil peut-être du peuple élu et accepter avec humilité ce que dit Paul au début de sa lettre. Tous les hommes sont pareils, ils sont tous pécheurs et donc ils sont tous égaux devant la grâce du Christ.
Ce qui ne devait pas être très facile à admettre d'ailleurs, car Israël est bien le peuple élu. Et malgré tout, il le reste, comme Paul lui-même le dit au chapitre 11 de sa lettre aux Romains. Paul est en fait obligé de faire comprendre aux Juifs le vrai sens de leurs Écritures, ce que nous appelons l'Ancien Testament, en leur expliquant que ce mystère était déjà prévu et présenté dans leurs textes saints, à condition qu'on les lise de la juste manière. Or, quand on se croit savant, lettré, maître en Écriture sainte, ça ne devait pas être très facile de s'entendre dire qu'on ne comprend pas le vrai sens de ce qui est écrit.
Sûrement.
Saint Paul s'est fait haïr et même lyncher à cause de cela. Et puis enfin emprisonné, il se défendra dans des procès qui furent en fait pour lui un formidable moyen d'évangélisation. C'est sa manière de faire de la publicité. Et c'est d'ailleurs ce qui le conduira devant l'empereur à Rome, à la fin de sa vie. Mais en cela, et en somme, il n'est pas très différent de Jésus lui-même, qui a aussi souvent tenté d'expliquer aux chefs des Juifs comment ils devaient lire les Écritures afin de comprendre ce qu'ils étaient en train de vivre. Et pour Jésus aussi, ça s'est assez mal terminé. Ouais.
Alors, donc, pour en revenir à la doxologie finale de la lettre aux Romains, Paul y dit assez clairement que son évangile, c'est-à-dire son message nouveau, est en fait la révélation d'un mystère caché depuis les origines qui arrive à son terme en Jésus-Christ et doit être à présent proclamé dans le monde entier. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, ce texte est lu au cours de la messe du quatrième dimanche de l'Avent de l'année B. Donc, il nous est lu comme l'annonce de la naissance du Christ. Et c'est vrai que saint Paul a eu des formules éblouissantes, de vraies envolées théologiques condensées en quelques mots, et qui ont traversé là les siècles en fascinant les chrétiens. C'est d'ailleurs ce côté de théologien brillant qui a dominé dans l'étude des Épîtres. Et rappelons-nous qu'au début de notre année de lecture, là, nous avions remarqué que les théologiens s'étaient principalement intéressés aux 11 premiers chapitres de la lettre aux Romains, ceux qu'on peut reconnaître comme étant les plus théoriques et théologiques. Mais on ne trouve presque pas de commentaires sur les derniers chapitres, donc chapitres du 12 à 16, qui ont reçu un peu l'étiquette de paranèse ou conseil pratique pour la vie chrétienne. Alors, avec la légère tendance de les trouver moins intéressants.
Mais oui, et surtout, on a longtemps fait une coupure dans la présentation même typographique, enfin dans les Bibles, comme si la partie pratique n'était pas en rapport direct avec la partie théologique. Et je pense que cela reflète une période de la foi chrétienne un peu trop abstraite, où on avait élaboré beaucoup de belles constructions théoriques, mais en méprisant un peu tout ce qui touche à la vie concrète, parce que trop compromise avec le corps, la charnelle, avec le monde tellement peuplé de mécréants. Mais c'est une tentation permanente de la foi, puisque déjà Jésus lui-même était obligé de dire à ceux qui l'écoutaient, et là je cite chapitre 7 de Matthieu, verset 21, « Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et je crois que c'est justement ce qui est en train de changer de nos jours. On commence à comprendre un peu mieux que les principes de la foi doivent se vérifier en s'incarnant dans une pratique de la vie quotidienne. Comme le dit d'ailleurs Jésus selon saint Luc, chapitre 8, verset 21, il dit « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » C'est quand même un peu fort. Mais ce juste rapport entre la foi et les œuvres, eh bien c'est aussi au cœur des préoccupations de la lettre aux Romains. Mais Paul, il dit aussi assez nettement que ce n'est pas la pratique qui fait le chrétien, mais seulement la foi.
Compliqué tout cela.
Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question, et nous parlons de l'épître de saint Paul aux Romains, dont nous tentons à présent de récapituler l'essentiel du message. Un des axes principaux que nous venons de rappeler est le rapport entre la foi et les œuvres. Or, c'est dans le chapitre 4 de la lettre que nous avons pu lire toute l'argumentation de saint Paul pour inverser la tendance qu'avaient les convertis d'origine juive à vouloir imposer la pratique de la loi de Moïse et plutôt mettre en premier la foi au Christ et l'accueil de sa grâce. Je cite par exemple chapitre 4, verset 5, « Si quelqu'un, sans rien accomplir, a foi en celui qui peut rendre juste l'homme impie, il lui est accordé d'être juste par sa foi. » Voilà, et c'est cette priorité de la foi par rapport aux œuvres qui a donc probablement provoqué le découpage fait à une certaine époque entre la partie théologique de la lettre aux Romains, le chapitre 1 à 11, et sa partie dite pratique, les chapitres 12 à 16, et qu'on pensait que le début était plus apte à stimuler la foi du chrétien. Mais nous avions vu, avec le père Rimbaud, vicaire général du diocèse de Tours, qui était venu un peu nous enseigner la lettre aux Romains, qu'il y a dans ce découpage un oubli majeur. C'est celui de la dimension de l'amour. Parce que la foi, ce n'est pas qu'un problème intellectuel.
Et non, effectivement. C'est aussi une question de confiance faite à quelqu'un, et pas uniquement à ce qu'il dit, hein, mais à tout ce qu'il est en lui-même. Le Christ n'a pas seulement enseigné, il a aussi soigné et guéri les âmes et les corps. Et il a donné sa vie pour ceux qu'il aimait. Et si on accepte de lire la lettre aux Romains sous l'angle de l'amour, on comprend mieux le retournement des priorités que Paul y préconise. D'abord, avoir foi au Christ, c'est-à-dire l'aimer, et accueillir sa grâce qui est sa façon de nous aimer. Et ensuite, en reconnaissance, par gratitude, répondre à l'amour du Christ en mettant en pratique ses enseignements, qui ne sont pas différents des commandements de Dieu. Ce qui disparaît, c'est l'idée que ce sont nos efforts vers la vertu qui vont nous guérir de la plaie du péché originel. C'est au contraire notre humilité, la conscience de nos limites et l'acceptation du salut qui est offert par le Christ qui vont progressivement nous transformer, je pense, et nous donner l'envie d'être à la hauteur de l'amour que nous avons reçu. Et les œuvres deviennent l'expression de cet amour reçu et notre contribution à cet amour, notre réponse, mais de façon tout à fait naturelle.
Mais oui. Et vu sous cet angle, la fin de l'épître exprime la conséquence logique de la foi au Christ, qui est de nous changer intérieurement de telle sorte que notre comportement extérieur va en être également métamorphosé, c'est-à-dire qu'on ne devra plus se forcer à paraître des surhommes à la volonté d'acier, mais étant unis au Christ dans l'amour, nous ne ferons plus qu'un avec la volonté de Dieu, par l'obéissance de l'amour. Donc, effectivement, naturellement, nous ne pouvons plus agir qu'avec charité. En tout cas, c'est là l'idéal qui nous est proposé. Il n'y a qu'à reprendre d'ailleurs un autre passage d'une lettre de saint Paul, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, pour nous convaincre définitivement que les œuvres seules ne peuvent conduire à rien. Je cite... J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Oui, vous connaissez certainement ce qu'on appelle l'hymne à la charité.
Oui, parce que je pense qu'à 90% des mariages, on retrouve ce texte.
Ah oui. La suite est encore un peu plus loin, aussi importante pour nous, puisqu'il ajoute « L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il ne tient pas rancune. » Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure oui. tout. Voilà et le programme. Voilà.
Et ce passage de la première lettre aux Corinthiens résume parfaitement la lettre aux Romains. Si l'on comprend que la foi est la seule vraie réponse de notre amour à l'amour de Dieu, alors les vraies relations humaines se mettront en place. Et ne voudront plus ni violence, agressivité, des prétentions des égos surdimensionnés, ni petites mesquineries et méchanceté ordinaire. Cela se fera spontanément, comme l'expression de notre vraie nature guérie par l'amour du Christ. Alors, juifs et païens seront unis dans les communautés chrétiennes. Il n'y aura plus de rapport de domination ni d'exploitation des plus faibles dans l'Église. Alors, tout le programme des chapitres 12 à 15 de la lettre aux Romains se réalisera sans difficulté. Fraternité, partage, bienveillance, discrétion, paix, douceur, respect mutuel, etc. Il semble bien que la seule et unique difficulté de la vie chrétienne soit en fait tout simplement d'accueillir l'amour du Christ, donc d'accepter de recevoir sa grâce, pas comme un principe théologique.
Hein. Oui, c'est là le problème, voilà. C'est pas une idée.
Mais c'est vraiment une réalité concrète hein, qui doit transformer nos vies. Mais bon, apparemment, ce n'est pas si facile que ça, hein, car nos communautés sont encore bien souvent déchirées et tourmentées quand même. Mais qu'est-ce qui est si difficile, alors? Peut-être, bon, lâcher prise, tu parles, l'abandon des défenses, l'orgueil, hein, ou comme dit le pape François, arriver à se reconnaître pécheur avec humilité vraie, en comprenant la blessure du péché originel que nous portons tous en nous.
Oui, et sans être quand même complètement effondré, cela pose la question de la conversion en général, qui n'est pas uniquement une affaire intellectuelle, mais une prise de conscience globale, corps, âme, esprit, de tout le besoin que nous avons du salut. Alors, salut en latin, c'est le mot salus, c'est d'abord la santé, mais au sens large. Et c'est pourquoi Jésus dira, selon Matthieu chapitre 9, hein, verset 12-13, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. » Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice. » En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Voilà, et c'est tout le sens de la parabole aussi que tout le monde connaît, mais le pharisien et le publicain. Parce que la guérison, elle est pour le publicain parce qu'il a conscience de sa maladie, c'est-à-dire de son péché profond. Mais en fait, dans nos blocages, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est la marque du péché originel en nous, à mon avis. C'est cet orgueil-là qui fait que l'on perd le lien d'amour avec Dieu et qu'on se dresse en face de lui comme un concurrent. Et il faut parfois descendre très bas, être mis KO par la vie, hein, m'être mis à genoux pour pouvoir enfin accepter de reconnaître que sans Dieu, ben, on n'est rien. Sinon, ben, c'est très difficile d'accepter la miséricorde de Dieu. Si on se croit invulnérable et tout-puissant, on n'en a pas besoin.
Ah ben c'est sûr qu'on n'en a pas besoin.
Alors là, il suffirait peut-être de relire bien à fond la parabole du fils prodigue pour mieux comprendre tout ça. Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question, et nous sommes arrivés à la fin de notre parcours de la lettre aux Romains. Et donc, pour terminer, nous allons simplement examiner comment cette lettre nous parvient encore aujourd'hui à travers les lectures dans les messes dominicales. En fait, elle est lue par fragments tout au long de l'année A, ce qui est assez logique, puisque l'année A correspond donc au début des lectures. Et on y lit d'abord l'évangile selon Matthieu, et donc aussi le début des épîtres, c'est-à-dire la lettre aux Romains, qui vient la première dans l'ordre des épîtres.
Il n'y a rien de théologique là-dedans.
Non, c'est par ordre de grandeur, en fait. Elle est mise en premier dans les épîtres parce que c'est la plus longue. Mais pour avoir la lecture de l'épître en entier, il faut aller tous les jours à la messe. Sinon, bien sûr, on saute en fait un ou deux chapitres par semaine. Alors, au moins, pour avoir toute l'épître, il faut combler les manques par des lectures à la maison.
Oui, mais en fait, cette lecture en continu n'est pas que celle qui est faite tout au long du temps ordinaire de l'année A. Hein. Il faut ajouter à cela des extraits qui sont repris pour les temps forts et les grandes fêtes. Et cela vaut la peine hein, de regarder hein, d'un peu plus près. Parce que ce sont alors des extraits de la lettre aux Romains qui sont choisis en fonction du sens donné à ces dimanches. Alors prenons donc quelques lectures en suivant là leur ordre de choix dans l'épître aux Romains. Donc d'abord, le tout début, hein, chapitre 1, versets 1 à 7, hein, donc vraiment le tout début de la lettre, qui est choisi comme lecture du quatrième dimanche de l'Avent de l'année A. Alors essayons de comprendre pourquoi, et donc je vais vous le lire. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile qu'il avait déjà promis par ses prophètes dans les Écritures saintes concerne son fils, issu selon la chair de la lignée de David. Voilà, donc rien que cet extrait nous suffit pour faire le lien direct avec le temps de l'Avent, puisqu'il évoque le fils de Dieu annoncé par les prophètes et qui va naître selon la chair dans la lignée de David. Donc il convient parfaitement pour l'attente de la nativité, et ce qui nous permet de savoir qui on attend.
Oui, et nous avions remarqué aussi tout à l'heure, au début de notre émission, que la conclusion de l'Épître, la magnifique doxologie, avait été choisie aussi pour un quatrième dimanche de l'Avent, mais cette fois de l'année B. Nous pourrions d'ailleurs regarder quelques autres extraits de la lettre aux Romains qui ont été choisis pour l'Avent. Parce qu'en fait, il y en a très peu. D'abord, pour premier dimanche de l'Avent de l'année A, un extrait du chapitre 13, versets 11 à 14, je vous lis. « Frères, vous le savez, c'est le moment, l'heure est venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les activités des ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans ripaille ni beuverie, sans orgie ni débauche, sans dispute ni jalousie, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ. » Donc on peut dire aussi que le lien est très facile à faire ici avec le début de l'Avent, qui est quand même une période un peu pénitentielle, où l'on se prépare à accueillir la naissance du Christ, lumière du monde. Et comme dit saint Paul, chaque année, le salut est plus près de nous maintenant qu'au jour où nous sommes devenus croyants. Oui.
Alors il y a encore un extrait de l'Épître pour le deuxième dimanche de l'Avent de l'année A. Il s'agit cette fois du chapitre 15, versets 4 à 9, qui parle encore des promesses contenues dans les Écritures saintes d'Israël. Donc je vous lis cet extrait. « Frères, tout ce que les livres saints ont dit avant nous est écrit pour nous instruire afin que nous possédions l'espérance grâce à la persévérance et au courage que donne l'Écriture. » Alors ce petit passage est bien adapté à l'espérance qui caractérise le temps de l'Avent. Alors le reste du texte met plus l'accent sur l'ouverture des promesses à toutes les nations, avec particulièrement une petite suggestion aux païens, c'est-à-dire à tous ceux qui ne sont pas d'origine juive parmi les chrétiens. Je vous lis donc le verset 7. « Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, vous qui étiez païens. » Donc ce thème de l'accueil est bienvenu aussi pour le temps de l'Avent, comprendre qu'il faut accueillir, qu'il faut s'accueillir les uns les autres pour mieux accueillir le Christ. C'est normalement un bel exercice. Voilà donc tout ce qui a été choisi donc, dans la lettre aux Romains pour ce temps de l'Avent, de l'année A. Nous pouvons regarder à présent ce qui nous est proposé en carême. Et là, pour le carême, il y a trois lectures pour l'année A et deux pour l'année C.
Ben, prenons déjà celle qui vient en premier dans l'Épître, c'est-à-dire chapitre 5, versets 1 et 2. Elle vient dans le troisième dimanche de carême de l'année A. Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes ainsi en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. Et notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Donc ce passage montre que la grâce est reçue par la foi, ce qui exclut toute prétention aux performances personnelles, toute trace d'orgueil de péché originel, comme nous disions tout à l'heure. Le seul orgueil qui nous est permis, c'est celui d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Voilà qui est parfaitement adapté aussi pour un temps pénitentiel de carême, mais qui fait aussi réfléchir à bien choisir notre programme de carême pour ne pas retomber justement dans les excès de volontarisme qui risquent au contraire de renforcer un orgueil mal placé et d'empêcher l'humilité. On connaît bien ces petites tentations de faire des performances de carême. La lecture se continuera au verset 5 et 8 pour nous rappeler que le Christ est venu donner sa vie pour les pécheurs et les coupables et non pas pour les justes.
Voilà. Et paradoxalement, la suite du chapitre 5 a été choisie pour un dimanche précédent, hein, donc le premier dimanche de carême de l'année A. Et ce sont les versets 12 à 19 hein, de ce chapitre 5 qui reviennent sur le péché original. Je vous lis le verset 12. « Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes du fait que tous ont péché. » Alors que dans la lettre de saint Paul, il s'agit d'une argumentation qui développe le thème de l'amour de Dieu, pour nous, en son Fils. Ici, on choisit ce passage parce qu'il vient en parallèle avec la première lecture qui est le récit du péché originel dans la livre de la Genèse. Et effectivement, c'est une belle entrée en matière pour se plonger dans le carême. Et la lecture se continue, bien sûr, et elle est assez longue, mais toujours pour conclure que tous les hommes sont pécheurs, mais aussi que tous pourront être justifiés en Christ. Et je vous lis donc le dernier verset, le verset 19. « De même que tous sont devenus pécheurs parce qu'un seul homme a désobéi, de même tous deviendront justes parce qu'un seul homme a obéi. » Et c'est le thème donc du Christ nouvel Adam qui vient restaurer l'humanité dans son état premier, d'avant le péché.
Et c'est tout pour le chapitre 5, hein, parce qu'ensuite on passe au chapitre 8, dont un extrait nous est proposé pour le cinquième dimanche de l'année A. Versets 8 à 11, et qui aborde le thème de l'opposition entre la chair et l'esprit. C'est-à-dire, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Voilà ce que dit saint Paul. Et il dit encore un peu plus loin, « Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Donc voilà une bonne formule trinitaire dont saint Paul a l'habitude. Et cette phrase qui va terminer le carême nous introduit directement sur l'espérance de notre résurrection à la suite du Christ, ce qui est une bonne préparation pour Pâques. Et comme nous n'avons plus beaucoup de temps, plutôt que de continuer à regarder des extraits pour le carême, je propose que nous allions directement à la fête de la Trinité de l'année B, car c'est là que l'Épître se continue, en fait. C'est toujours là qu'est le chapitre 8, les versets 14 à 17. Ces versets qui sont choisis parce qu'ils sont de nouveau une formule trinitaire dont Paul a le secret, un bijou de concentré théologique.
Voilà, oui, je vais vous lire quand même ces versets magnifiques. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que nous avons reçu ne fait pas de nous des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un Esprit qui fait de nous des fils. Poussés par cet Esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. Et c'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, à condition de souffrir avec lui pour être avec lui dans la gloire. Voilà, donc je pense que c'est un texte parfait pour conclure notre lecture de l'Épître de saint Paul aux Romains, car vraiment ce texte nous inscrit dans l'amour des trois personnes de la Trinité et nous donne, hein, j'espère, le courage d'affronter la réalité de notre vie d'aujourd'hui, qui n'est pas épargnée par la souffrance, mais qui est quand même remplie d'espérance du royaume de Dieu.
Et oui, nous n'avons pas terminé l'inventaire des lectures de l'Épître aux Romains qui sont dans nos messes dominicales, mais nous souhaitons que vous aurez envie de continuer vous-même cette exploration et que notre réflexion sur cette lettre essentielle de saint Paul vous aura intéressé tout au long de cette année et vous aura donné le goût d'en savoir encore plus à son sujet. À présent, nous vous disons au revoir, chers auditeurs, et à la saison prochaine pour une autre année de la Bible en question.
Voilà, au revoir Catherine, au revoir à tous, et à l'année prochaine, j'espère.